la famille rejoint la rue Vitruve. Le père loue un piano droit, plutôt satisfait de cette perspective de destin artistique. Le piano ?
Je n'ai jamais reçu de leçons de piano. Je jouais d'oreille. Je ne connaissais d'ailleurs rien au solfège qui me rebutait. Un après-midi que nous sommes seuls, ma mère et moi, elle s'assied au piano, souriante, et me joue des valses de Chopin. J'ignorais que ma mère savait jouer du piano. Je pleure. Mon père s'absente souvent et de plus en plus longuement.
Elle entre au conservatoire avec au concours les visiteurs du soir de Thiriet. Le récit de la messagère d'Orfeo de Monteverdi, la ronde de Paul Fort et Jean Hubaud, mais très vite, elle va sécher les cours.
Un jour, je suis allée écouter Edith Piaf. Elle chantait sur les boulevards au théâtre de l'ABC. Je me souviens d'être restée collée à mon siège. Sa voix m'avait fait pleurer, et les yeux, et le cœur. Je me suis mise alors à découvrir passionnément la chanson.
La vision d'un garçon qui est bien entretenu. Ça va finir, je veux courir dessus. Insensé, je le sais, j'en suis convaincu.
De nos 20 ans, par ce beau matin de printemps, j'ai voulu revoir tout là-bas l'auberge au milieu des lilas. On entendait dans les branches les oiseaux chanter dimanche, et ta chaste robe blanche paraissait qu'il n'aimait pas. Tout avait l'air à sa place, même ton nom sur la glace, juste à la place, tout efface, quoi qu'on fasse, tout autorasse. Je croyais presque entendre ta voix tendre murmurer, bien plus près.
J'étais alors aux États-Unis, au bord fleuri du Missouri. Pays de rêve et d'amour, dont je me souviens toujours, le soir au milieu des plantations, les petits colons, assis en rond, chantaient un refrain charmant, tout doucement. Tout le long du Missouri, tous les grands minots à fleuri, chaque soir à la brune, quand au ciel monte la lune, au loin dans la savane, on entend une chanson que tendrement.
Sur ma cheminée, j'ai vu ce matin trois petits lutins qui se promenaient, qui se promenaient les doigts dans le nez. Le premier m'a dit, c'est moi qui détraque toutes vos pendules pendant les 30 jours du mois. C'est moi qui les démantibule, c'est moi qui les fais avancer toutes les fois que vous êtes pressés. À cause de moi, certains jours vous vous dites, c'est fou comme le temps passe vite. Suivant mon goût et mon humeur, vous êtes en retard ou vous êtes à l'heure. Je couche dans l'horloge du vestibule.
Au bout de quelques mois, elle quitte définitivement le conservatoire avec tout de même un peu de technique acquise.
Votre première rencontre avec la chanson, vous, Barbara, qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu le déclic à un moment donné où vous étiez habité, où ça a été naturel?
Moi, j'étais habité, mais je pense que déjà, alors ça va paraître ridicule, mais moi, à 4 ans, je jouais à la pianiste, à la chanteuse, et j'ai toujours été persuadée, mais je savais pas ce que ça voulait dire, vedette ou pas vedette, j'ai toujours été persuadée que je chanterais, et que, oui, ça c'est évident, j'ai pas eu de rencontre avec la chanson, j'ai toujours été persuadée que je chanterais. Bon, j'ai fait du classique pendant plusieurs années, et puis un jour, je me suis aperçue que c'était pas du tout mon truc. Je suis rentrée au conservatoire, mais d'ailleurs, j'étais acceptée que jusqu'au deuxième examen, il y en avait 3, donc le reste du temps, je l'ai passé à jouer à la belote au Rue de Madrid. Mais, et puis un jour, je me souviens, je j'ai entendu Edith Piaf, un jour, je me suis dit, oulala, mais c'est pas, parce que, à ce moment-là, les gens faisaient du classique, il y avait une espèce, non pas de mépris, mais la chanson de la variété, c'était une chose, la variété, on parlait pas de variété. Les chanteurs, ils ont tout le complexe du contrut et du contre-l'art, enfin pas tous, je veux dire, on parlait beaucoup de ça, ce que t'as eu le contre-l'art, enfin moi je l'avais pas, c'est bien.
On chantait donc, chez vous?
Ben, chez moi.
Oui, parce que Diane Dufresne, justement, m'a raconté que la chanson, ça, pour elle, ça a été quelque chose de tout à fait naturel, parce que c'est sa mère qui lui avait apporté un certain nombre de chansons.
Non, on chantait pas chez moi, mais quand même, pas très loin de moi, il y a des gens de cirque et des slaves, des saltimbanques, oui, voilà. Même très près de chez moi, très près de moi.
Début 1948, à peu près au même moment, elle est recrutée comme mannequin choriste dans l'opérette Violette impériale de Scotto et Wilmette. À l'audition, elle veut chanter La tombe obscure de Beethoven, mais elle sera vite interrompue car ce n'est pas ce qui intéresse les recruteurs. Elle est néanmoins retenue tout de suite à la première audition, peut-être surtout grâce à ses grandes jambes. Et la voilà sur scène, et heureuse d'y être, même pour 3 francs 6 sous. Après quelques mois, un beau jour, j'ai décidé que ça suffisait comme ça, dira-t-elle. Et à ce moment, Jacques Cerf n'a plus de travail et il déprime. La relation entre les parents se dégrade encore. Finalement, le père quitte la rue Vitruve et ne reviendra jamais. La vie est devenue moins étonnante, mais Monique n'a pas de quoi payer les mensualités du piano. Il est repris par le loueur.
Je me souviens de la douleur lancinante que je ressentis dans le bas des reins. Elle reviendra à chaque bouleversement intense de ma vie.
Touche pas mon piano, touche pas mes remparts, touche pas mes lunettes, touche pas mon regard, touche pas ma roulotte, touche pas mes départs, ni mes chemins de hasard. Je vis ma vie au piano noir, tout en strass dans mon miroir, je suis une chanteuse de boulevard. Touche pas mes silences, touche pas mes errances, je navigue en solitaire, je vis mes délires interplanétaires, tout là-haut dans la lumière. Je suis d'accord pour que tout change, mais j'aime pas trop qu'on me dérange, je manque de rien, j'ai tout, je veux rien. Ils ont dit que mes câbles ont touché à rien de mon univers. Ils ont dit mes câbles sont partis plus loin, rien à dire pour savoir ce que vouloir. Faut écouter ces battements du cœur, du temps qu'il est encore temps. Faut pas venir pleurer après sur le bord d'un canapé. Il a touché mon piano, il a changé mon regard, il a diamanté ma vue. Je parlais avec les anges, j'aurais voulu que tout change. C'est beau l'amour qui dérange, et mes anciennes de ma mémoire me revenaient tous les soirs, l'ombre de mon piano noir. Il a dit peccable, je vais toucher à rien de ton univers. Vis ta vie en piano noir, mon cœur de lumière. Le grand amour, si tu veux que tout change, c'est sûr, ça dérange. Faut pas venir pleurer à Paris, ton mouchoir au bout du cœur. Et puis je continue, c'est tant pis, tant mieux. J'ai pas vu passer ma vie, l'usure, la morsure du temps, et c'est la fin de mes printemps. J'aime la vie, belle vie, ce théâtre en théâtre. J'allume mes nuits, belles mes nuits, quand j'avance dans la lumière. Derrière mon piano, derrière mes remparts, derrière mes lunettes, derrière mon regard, seul dans ma roulotte, faut savoir ce que vouloir. Sur mes chemins de hasard, je chante ma vie en piano noir, tout en strass dans mon miroir, je suis une chanteuse de boulevard. Touche pas mon piano, touche pas mes remparts, touche pas mes lunettes, touche pas mon regard, touche pas, ne touche pas, ne touche pas, ne touche pas mon piano, touche pas mon regard, touche pas ma roulette, touche pas mes remparts. Je vis ma vie en piano noir, tout en strass dans mon miroir, puis une chanteuse au boulevard. Touche pas, le touche pas, la touche pas.
Désespéré, envahi par une révolte d'une rare violence, je quittais Vitruve le jour même. Je n'avais pas 18 ans. Au bout de la rue, place Saint-Blaise, une de mes amies tenait un bureau de tabac. Je m'en vais de chez moi, je n'ai pas un sou. Elle a sorti 300 francs de son tiroir caisse et me les a donnés. Une fortune pour moi. On a pleuré ensemble. Cette généreuse petite femme est partie depuis longtemps. Je lui dois beaucoup, en tout cas, je lui dois 300 francs que je n'ai jamais pu lui rendre.
On est en 1950, sans doute au mois de février. Elle prend le train pour Bruxelles. À Bruxelles, il y a un vague cousin, Sacha Pirouzki, musicien, joueur de balalaïka, qui se révélera vite aussi truand, flicard et macro. Elle va chez lui, elle y restera 2 mois, car il est vite devenu brutal et violent, et elle découvre l'autre volet de ses activités.
Un après-midi, je me suis enfui avec mes quelques sous, profitant de ce qu'il était absent. Plusieurs jours durant, je me suis caché. J'avais très peur qu'il me fasse rechercher. J'ai toujours eu très peur de qui porte un uniforme et peut-être encore plus peur de qui fait le même métier sans en porter.
L'errance en Belgique. 3 mois après son arrivée, Monique est seule, elle n'a pas de logement ni d'adresse.
Je marche des heures durant, les yeux et le ventre vides.
Et j'entre dans la fosse au lion. C'est ma vie, c'est ma déraison. J'ai peur, mais j'avance quand même. Car j'aime voyager de ville en ville et d'océan en océan. J'ai survolé la Roque-Vanille et les gratte-ciels de Manhattan. J'ai vu les neiges étoilées, j'ai touché le surnaturel. Je sais où vont les ballons blancs que perdent les petits enfants. Dans un nightclub de Harlem Gab, j'ai croisé le regard d'un homme. Et ce regard m'a troublé l'âme quand il a touché mon cou nu. J'aurais aimé coucher mes reins, j'aurais aimé plier mon cou. Mais seul capitaine à bord de mon piano vaisseau, pas le temps, pas le temps. J'entends la foule qui crie mon nom, Lily Passion. Et j'entre dans la fosse au lion. C'est ma vie, c'est ma déraison. J'ai croisé d'étranges comètes dont j'ai cru capter les signaux. Et je ramène dans ma tête des bruits d'orages tropicaux. J'ai touché l'aile des oiseaux, j'ai caressé le merveilleux. J'ai déchiré comme un rideau l'espace, la brume et le vent. À chacun sa révolution et à chacun son dérisoire. Moi je fais ma guerre en chanson. Je n'entrerai pas dans l'histoire. J'entends la foule qui crie mon nom, Lily Passion, Lily Passion. J'entre dans la fosse au lion. C'est ma vie, c'est ma déraison. J'ai peur, mais j'avance quand même. Car j'aime, j'ai peur, mais j'avance, mais j'ai peur, j'avance quand même, j'avance, car j'aime, j'ai peur, mais j'avance, mais j'ai peur, mais j'avance quand même, j'avance, car j'aime. J'avance quand même. J'ai peur, mais j'avance. J'avance, mais j'ai peur. J'ai peur, mais j'avance. J'avance, car j'aime, j'aime.
Les meilleurs jours, elle prend une chambre à crédit, on imagine la suite, ou arrive à se faire inviter à dîner, ou encore d'autres marginaux lui paient un pistolet, pain, salade, frites, moutarde, et elle repart seule, très dure.
Ça ne prévient pas, ça arrive. ça vient de loin. Ça s'est traîné de rive en rive, la gueule en coin. Et puis un matin au réveil, c'est presque rien, mais c'est là, ça vous ensommeille au creux des reins. Le mal. Fleur en boutonnière ou juste à la pointe du sein, c'est pas forcément la misère, c'est pas Valmy, c'est pas Verdun, mais c'est les larmes aux paupières, au jour qui meurt, au jour qui vient. Le mal. Soit d'Égypte ou bien d'Afrique ou de la porte Saint-Martin, on fait tous la même prière, on fait tous le même chemin, qu'il est long quand on doit le faire avec son mal au creux des reins. Ils ont beau vouloir nous comprendre, ceux qui nous viennent les mains nues, nous ne voulons plus les entendre, on ne peut pas, on n'en peut plus. Alors seul dans le silence d'une nuit qui n'en finit plus, voilà que soudain on y pense à ceux qui n'en sont pas revenus. Du mal de vivre, leur mal de vivre qui. Prévenir, ça arrive, ça vient de loin. Ça s'est promené de rive en rive, de rire en coin. Et puis un matin au réveil, c'est presque rien, mais c'est là, ça vous émerveille au creux des reins.
J'ai faim. Un soir, je descends dans la rue pour me prostituer. Ce n'est pas le malheur, le grand malheur, mais c'est un grand chagrin. Il pleut, j'ai faim, j'avance. Il faut du courage pour se prostituer. Je n'ai pas ce courage-là. J'arrive dans une rue transversale où les filles travaillent. Je passe tout près d'elles. Elles sont belles, elles sentent bon. Avec ma paire de lunettes à un œil, dans mon vieux manteau gris, je suis vite repérée par les filles qui m'interpellent en riant. J'ai faim, j'avance, j'ai honte. Je bifurque, mais je sens que je suis suivie. Je presse le pas. Derrière moi, on accélère aussi. On me parle, je me retourne, je regarde, j'insulte très fort. Il faut du courage pour se prostituer. Je n'ai pas ce courage-là. Je ne sais plus ce que je crie. Surpris, l'homme essaie de me calmer. Je hâte à nouveau le pas. Il m'escorte toujours sans plus me parler. Au bout d'un moment, sans méchanceté, il dit doucement « Je m'appelle Charles Aldoubaram. » Je réponds « J'ai faim. » Aldoubaram me fait entrer dans une brasserie de la gare du Nord. Je dévore des frites, des moules, des frites et encore des frites. Il est assis en face de moi, Charles Aldoubaram, dans son beau manteau de l'Oden, bien au chaud, lunettes et d'écaille, grand, sympathique, teint pâle, souriant. Il ne dit rien. Il attend que je sois rassasié et les mots déboulent de ma bouche. Je dévide ma litanie. Je veux chanter. Je raconte ces 3 mois écoulés à rôder, les portes fermées, la fatigue, seul avec soi. Je dis l'hôtel sans argent, impayé. Nous parlons toute la nuit dans cette brasserie qui ne ferme pas. Aldoubaram dirige un casino connu en France. C'est vrai, il cherchait une fille sur le boulevard Anspar. Il est là pour affaires. Il rentre le jour même à Paris et propose de me ramener. Il va téléphoner à sa femme, lui expliquer, ils ont une grande maison. Il est juif. Tout à coup, il se sent envers moi des devoirs. Il est gentil, Aldoubaram. Je suis venu pour chanter. Je ne repartirai pas sur un échec. Il me demande si je connais du monde à Bruxelles. Je lui raconte le joueur de balalaïka aux cheveux gominés, moitié musicien, moitié maquereau. Il rit, je ris avec lui. Je l'accompagne au train. Jusqu'à la dernière seconde, il insiste pour me ramener avec lui. Je refuse. Il me donne de l'argent et me fait promettre de régler l'hôtel et faire réparer mes lunettes. Il me communique son numéro de téléphone à Paris. Il est parti. Je reste sur le quai. Il a été formidable, Aldoubaram. Un soir, bien plus tard, je recevrai une brassée de fleurs à l'Olympia et ces mots. Vous aviez raison, stop, bravo, stop, Aldoubaram.
D'Aristide Bruand à Saint-Lazare. C'est de la prison que je t'écris, mon pauvre Polyte. Je ne sais vraiment pas ce qui m'a pris à la visite. C'est des maladies qu'à se voit pas, quand qu'à se déclare. En attendant, soir, je suis dans le temps à Saint-Lazare. Et toi tout seul, comme un pauvre chien, qu'est-ce que tu vas faire? Je ne peux t'envoyer rien de rien, c'est la misère. Ici, tout le monde est décavé. La braise est rare. Faut 3 mois pour faire un lavé à Saint-Lazare. Vrai de savoir comme ça sent le sou, ça me fait de la bile. T'es capable de faire un sale coup, je suis pas tranquille. T'as trop de fierté pour ramasser des bouts de cigare. Pendant tout le temps que je vais passer à Saint-Lazare. Et puis mon petit loup ne boit pas trop, tu sais que t'éteignes. Et quand t'as un petit coup de sirop, tu flanques des beignes. Si tu te faisais coffrer un soir dans une pagare, y'a plus personne qui viendrait me voir à Saint-Lazare. Je vais terminer en t'embrassant. Adieu mon homme, malgré que tu sois pas caressant, moi je t'adore comme j'adorais le bon Dieu comme papa quand j'étais petite. Et que j'allais communier à Sainte Marthe.
Vingt ans, pas d'argent, pas de permis de séjour, pas de permis de travail, pas de papiers d'identité. Un jour, à Bruxelles, elle rencontre Peggy, une jeune femme paumée, enceinte. Peggy, une jeune comédienne de Charleroi, juste sortie du conservatoire, qui a des copains à Charleroi. Ils ont récupéré un grenier au-dessus du dancing du père de l'un d'entre eux et en ont fait un espèce de cabaret, la mansarde. Peggy leur a dit « Une copine française va passer, je lui ai donné l'adresse. » Elle arrive ce soir-là à 23h, dit Yves Delporte. J'étais en bas de l'escalier, sur le seuil, et j'ai vu arriver une silhouette. C'était l'époque où les chaussures s'appelaient des ballerines, avec de longs lacets qui se nouaient autour de la cheville. Elle avait des ballerines noires, elle avait une jupe noire, elle avait un pull ras du cou noir, elle avait des lunettes noires. Elle a dit « La mansarde, c'est bien ici ?» On l'a tous accueillie, elle nous a dit qu'elle s'appelait Barbara. Elle était mal. Je me demande même si elle n'est pas tombée dans les pommes tellement elle crevait de faim. On l'a fait manger et on s'est disputé l'honneur de la loger. C'est chez moi qu'elle a passé la première nuit. Delporte se souvient ensuite. Un étrange phénomène. Dès qu'elle a pu se détendre, elle n'a presque plus su parler. Pendant plusieurs jours, elle a eu d'énormes difficultés d'élocution, mais ça lui a vite passé. Il la loge chacun leur tour, l'intègre un peu et surtout lui laisse la clé de la mansarde où il y a un piano. Elle fait savoir partout qu'elle chante et elle organise de petits récitals.
Oui, ça va, je peux couper.
Moi, c'est encore une petite idée derrière la tête, quelque chose. Ça te va? Oui, lequel?
Bon.
Tu as pas.
Alors, Madame Arthur.
Madame Arthur est une femme qui fit parler d'elle longtemps. Sans journaux, sans rien, sans réclame, elle eut une foule d'amants. Chacun voulait être aimé d'elle, chacun la courtisait. Pourquoi c'est que sans être vraiment belle, elle avait un je ne sais quoi. Madame Arthur est une femme qui fit parler d'elle longtemps. Sans journaux, sans rien, sans réclame, elle eut une foule d'amants. Il fallait la voir à la danse, son entrain était sans égal, par ses mouvements, sa prestance, elle était la reine du bal. Cavalier lui faisant face, son pied touchait le nez ma foi, chacun applaudissait sa grâce, et surtout son je ne sais quoi. Madame Arthur est une femme qui fit parler d'elle longtemps. Sans journaux, sans rien, sans réclame, elle eut une foule d'amants. Mais de quoi vivait donc cette dame, menant un grand terrain de maison, courant au vaudeville, au drame, rien qu'à l'avant-scène, dit-on. Elle voyait pour l'ordinaire venir son terme sans effroi, car alors son propriétaire admirait son je ne sais quoi. Madame Arthur est une femme qui fit parler d'elle longtemps. Sans journaux, sans rien, sans réclame, elle eut une foule d'amants. Aux femmes qui cherchaient à faire des conquêtes matin et soir, en vain vous passez pour vous plaire des heures à votre miroir. Élégance, grâce, mutine, regard, soupir de bon aloi, velours, parfaits et crinoline, rien ne vaut un jeune secours. Madame Arthur est une femme qui fit parler sans journaux, sans rien, sans réclame, elle eut une foule d'amants. Madame Arthur est une femme qui fit parler d'elle longtemps.
Néanmoins, elle est chroniquement instable, parfois agressive, avec des très hauts et des très bas. Au programme du 18 mars 1951 à la Mansarde, Barbara chante « Le Galérien » à Saint-Lazare et l'hymne à l'amour en finale. Et puis, la Mansarde ferme. Au-dessus d'un garage, ils ouvrent alors le Vent Vert, sans public mais avec un piano. Elle a dormi là, elle a chanté là, on aimait l'écouter. Elle allait alors entre Charleroi et Bruxelles où elle essayait de chanter aussi. Elle a pris son nom de scène, Barbara Brody. Sa mère s'appelait Brodsky. Son aïeul de Moldavie était peut-être une Barbara. À Bruxelles, elle chante Piaf, traînait, ferré, sans succès. Son physique intrigue et dérange. Trop sombre, trop grande, trop grosse. Le journal La Dernière Heure écrira « Une certaine Barbara se ridiculisa ». Bruxelles aussi, on sait peu de choses de sûr, même pas la date exacte, mais vraisemblablement, en cette période-là, elle est enceinte et perdra son bébé. Il y aura eu une intervention chirurgicale, elle ne pourra plus enfanter. Elle a tout de même dit
« Si j'avais eu de l'argent à Bruxelles, mon enfant, quelle horreur pour une femme, ce vide ici !» J'ai longtemps senti dans mon ventre un vide glacé. J'ai longtemps jalousé les femmes enceintes et détesté les nouveau-nés. J'ai souvent marché la main posée sur mon ventre.
Pendant ce temps-là, le père, Jacques Cerf, qu'est-il devenu ? On ne sait pas. On sait tout de même qu'il est passé à Saint-Marcellin, représentant en gelée royale, qu'il disait. Il s'est rendu à l'hôtel Serve, celui du temps de la guerre. Il n'avait pas d'argent, je lui en ai donné, dit la patronne. Il était triste. Il a dit « Je suis tout seul ». Mais il s'est bien gardé de dire pourquoi et comment. Et puis, on le retrouve à Nantes. Mi-1951, environ 18 mois après son arrivée en Belgique, Monique décide de quitter Charleroi pour la France. Sa mère, ses frères, sa sœur lui manquent. Elle part à la marche.
Nous ne nous appartenons pas. Nous ne décidons rien de notre vie. Nous sommes tous les otages de forces qui nous animent, qui nous dirigent, qui nous ordonnent. Nous devons obéir. Les forces sont là, 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 partout. Elles nous guettent. Elles nous suivent. Les forces nous aiment, elles nous protègent, elles nous subliment. Mais attention, les forces peuvent aussi... Hop ! Plus rien. Silence. Pas même un cri d'oiseau. Une pluie de cendres. Vous ne me croyez pas ? Vous ne me croyez pas. Oh, là, vous avez tort. Écoutez. Regardez ce qui va se passer. Là. Là-bas. Là-bas.
Un soir, sans l'avoir prémédité, je sors de la ville. Je marche. Je prends la route du sud. Je ne me rends même pas compte que je m'en vais. Je suis vêtue d'une salopette verte, chaussée de grosses bottes lourdes. C'est là toute ma richesse. Je n'ai plus de papiers, je les ai abandonnés dans un hôtel que je ne pouvais plus régler. Je n'ai plus rien. Je veux rentrer en France. On m'a dit que du côté de la frontière, il y a des sentiers de passe pour les clandestins. Je n'ai dit au revoir à personne. Je reviendrai, je le sais. C'est un demi-échec, mais je reviendrai. Je veux rentrer à Vitruve, voir ma mère, mes frères, ma sœur. juste les voir, puis repartir. Je marche depuis plus d'une heure, j'avance sans plus regarder, je ne guette plus les voitures. J'ai mal aux pieds dans mes grosses et lourdes bottes. Il me semble qu'il fait doux, mais très gris. Je n'ai pas entendu venir la Chrysler noire de M. Victor, qui s'est arrêté à ma hauteur. « Où vas-tu ?»« À Paris. »« Moi aussi, monte, je t'emmène. » Je lui explique que je voudrais bien, mais que je n'ai pas de papier pour passer la frontière. Il n'est pas du genre à s'embarrasser de problèmes de papier, M. Victor. « Monte, je vais te la faire passer, moi, la frontière. » Je suis montée. Il ne m'a rien dit. Il ne m'a posé aucune autre question. De temps à autre, il se contente de me regarder en biais. Nous avons ainsi roulé une centaine de kilomètres. À quelques dizaines de mètres du poste de douane, il a senti que je pâlissais, M. Victor. « T'inquiète pas, » m'a-t-il dit. Il est descendu de voiture. Un douanier s'est avancé vers lui. Je ne sais pas ce qu'ils se sont dit, mais au bout de 2 minutes, il est remonté et a démarré. « Je fais souvent la route, » explique-t-il en souriant. « Il faut dire que je suis trafiquant de voitures. » T'as eu peur ? Oui. Il me regarde à nouveau en biais. La Chrysler file en douceur, féline. On est en France. Qu'on se sent bien dans la Chrysler tout en cuir noir de M. Victor. Que c'est bien, le toit ouvrant sur un ciel qui s'éclaircit. Que c'est bon, les odeurs de mai qui s'engouffrent par la vitre à demi baissée. Je l'ai bien regardé, M. Victor. Sous sa chemise ouverte, il était tatoué jusqu'au cou, depuis le dos des mains jusqu'en haut de ses bras brunis. Il était beau. Je n'avais pas peur. Je me suis endormie. Je me souviens que je me suis réveillée devant une auberge. J'ai suivi M. Victor. Il y avait une petite salle de restaurant avec des nappes en papier à carreaux rouges. Le fumet, la saveur, le jaune un peu roussi des petits lardons, le moelleux de l'omelette que m'offrit M. Victor. Ce jour-là, j'en garde encore le goût aujourd'hui.
Vingt kilomètres avant la frontière, j'avais tant marché, je n'en pouvais plus. Je ne ramenais que la poussière, collante à mes bottes, au sommet usé. Qu'est-ce que ça veut dire 20 ans si tu crèves devant un désert de portes fermées? Qu'est-ce que ça veut dire si tu n'as pour rêve rien que ta folie de vouloir chanter? Victor, monsieur Victor, vous aviez un drôle d'air quand vous avez stoppé. Je n'avais pas confiance, pourtant je suis montée dans votre coupé tricolore. Ce jour-là, monsieur Victor, sur la route du Nord, vous n'étiez pas de ceux qui posent des questions. Avec vos tatouages jusqu'aux oreilles, vous aviez l'air d'un drôle de cinéma. En crocodiamant, sous ce chapeau, vous m'avez dit, je suis trafiquant de voitures, on contournera la frontière. Peur de rien, j'avais la folie de chanter. Paris était loin, je n'en pouvais plus. Victor, monsieur Victor, je me souviens encore de cette auberge et du café chaud. Victor, monsieur Victor, vous aviez un cœur d'or pour moi ce jour-là. Sur la route du Nord, il faisait presque nuit, j'avais beaucoup parlé. Paris n'était plus loin, j'avais le cœur serré. Quand vous avez stoppé votre coupé Chrysler, porte de la Villette, vous aviez un drôle d'air. Vous m'avez dit, chanter, c'est pas un métier. Pour faire l'artiste, il faut des connaissances. Victor connaît la vie, tu peux lui faire confiance. Laisse-moi m'occuper de toi, t'auras plus jamais faim. Victor, monsieur Victor, j'aurais dit oui peut-être, mais j'avais en moi la folie de chanter. Victor, monsieur Victor, vous aviez un cœur d'or pour moi ce jour-là.
sur la route du Nord. Victor, monsieur Victor, j'ai changé de décor. Je chante maintenant sur les routes de partout. Pourtant, monsieur Victor, je n'ai pas oublié ce café chaud sur la route du Nord, monsieur Victor. Vous aviez un cœur d'or.
En arrivant à Paris, je crois que je suis allée rue Marcadet, où ma Crani n'était plus, mais où vivait encore une de ses filles qui m'a hébergée. Le lendemain, je suis allée chercher ma petite sœur à la sortie de l'école de la rue des Pyrénées, près de la porte de Vincennes. Je l'ai raccompagnée à Vitruve, mais je n'ai pas eu la force de monter. Je suis retournée à Marcadet, j'ai commencé à chercher du travail.
Au fil de ses démarches, elle finit par être envoyée vers Jean Vinaire.
Il m'a dit que, de cette même façon, il avait un jour reçu Édith Piaf, venue comme moi lui demander des conseils. Il m'a affirmé qu'un jour je chanterais, pour de vrai, il en était sûr. En attendant, devant l'urgence de ma situation, il m'a envoyé à Pierre Prévert, qui allait ouvrir la fontaine des Quatre Saisons. Quand j'arrive à la fontaine, les auditions sont bouclées, le spectacle est déjà monté. Pierre Prévert, désolé, me dit qu'il ne reste qu'une place de plongeuse à 8 francs par jour.
Elle prend ce travail. À la fontaine, on donne alors en 1951 le dîner de tête de Jacques Prévert avec Roger Pigault.
C'est la fin du discours. Comme une orange abîmée, lancée très fort contre un mur par un gamin mal élevé, la Marseillaise éclate. Et tous les spectateurs, éclaboussés par le vert de gris et les cuivres, se dressent congestionnés, ivres d'histoire de France et de Pont et Canet. Tous sont debout.
Sauf l'homme à tête de Rouget de Lille qui croit que c'est arrivé et qui trouve qu'après tout, ce n'est pas si mal exécuté. Et puis, peu à peu, la musique s'est calmée. Et la mère à tête de morte en a profité pour pousser sa petite fille à tête d'orpheline du côté du président.
Les fleurs à la main, l'enfant commence son compliment. Oh,
monsieur le président!
Mais l'émotion, la chaleur, les mouches, voilà qu'elle chancelle et qu'elle tombe le visage dans les fleurs, les dents serrées comme un sécateur.
L'homme à tête de bandage hernière et l'homme à tête de flegmont se précipitent. Et la petite est enlevée, autopsiée et reniée par sa mère. Qui, trouvant sur le carnet de bal de l'enfant des dessins obscènes comme on n'en voit pas souvent, n'ose penser que c'est le diplomate ami de la famille et dont dépend la situation du père qui s'est amusé si légèrement.
Cachant le carnet dans sa robe, elle se pique le sein avec le petit crayon blanc et pousse un long hurlement.
Mouloudji fait ses débuts dans la chanson. Les marionnettes de la faille sont au programme. Boris Vian et Jacques Prévert aussi. Ainsi que Francine Claudel qui chante Christiane Verger et Jacques Prévert. Louis Bessières et Henri Crolla accompagnent cette magie. C'est Louis Bessières qui rapportera. L'après-midi, au moment des répétitions, elle venait jouer et chanter pendant les pauses, dès que le piano se libérait. Les patrons la laissaient faire, ça ne dérangeait pas, c'était étonnant. Elle était encore amateur, mais déjà douée. On voyait bien qu'elle ne ferait pas la vaisselle toute sa vie.
De Senlis et de l'Écluse, sur une musique de Marguerite Monod, Les Amants d'un jour.
Moi, j'essuie les verres au fond du café. J'ai bien trop à faire pour pouvoir rêver. Et dans ce décor banal à pleurer, il me semble encore les voir arriver. Ils sont arrivés
se tenant par la main, l'air émerveillé de deux chérubins. Portant le soleil, ils ont demandé d'une voix tranquille un toit pour s'aimer au cœur de la ville. Et je me rappelle qu'ils ont regardé d'un air attendri la chambre d'hôtel au papier jauni. Et quand j'ai fermé la porte sur eux, il y avait tant de soleil au fond de leurs yeux que ça m'a fait mal, que ça m'a fait mal. Moi j'essuie les verres au fond du café, j'ai bien trop à faire pour pouvoir rêver. Et dans ce décor banal à pleurer, c'est corps contre corps qu'on les a trouvés. On les a trouvés, se tenant par la main, les yeux refermés vers d'autres matins. Portant le soleil, on les a couchés, unis et tranquilles, dans un lit creusé au cœur de la ville. Et je me rappelle avoir refermé dans le petit jour la chambre d'hôtel des amants d'un jour. Mais ils m'ont planté tout au fond du cœur un bout de leur soleil et tant de douleur que ça me fait mal, que ça me fait mal. Moi j'essuie les verres au fond du café, j'ai bien trop à faire pour pouvoir rêver. Et dans ce décor banal à pleurer, il y a toujours dehors la chambre à louer.
Durant presque une année, je lave les verres du tout Paris, émerveillé. Je vois défiler par la petite lucarne de ma plonge Édith Piaf, Eddie Constantine, Simone Signoret, Yves Montand, Daniel Hivernel. Jean Viener vient quelquefois m'offrir des frites au petit bougna d'en face où mon ardoise s'allonge. La fontaine était vraiment un endroit extraordinaire. C'est grâce à ma place de plongeuse que je pus admirer tous les soirs un spectacle que je n'aurais jamais pu m'offrir. Mais porter des caisses et faire la plonge, c'est dur. Un jour, exténué, malade, je pars. Privation, épuisement, hospitalisation.
Bizarre cette maladie. Quelle maladie, au point d'être hospitalisé, mais pas d'y rester bien longtemps cependant. Un jeune artiste peintre, Jeff, ami de ses amis de Charleroi, de passage à Paris, cherche à la rencontrer. Il va donc à l'hôpital et la retrouve. Trois jours plus tard, au début de l'hiver 52, elle sort de l'hôpital, monte sur la moto et dans le froid part à Ixelles, près de Bruxelles, avec lui. Bleuie par le froid, dit-elle, mais guérie. Jeff partage avec ses amis peintres la maison de Von Dahl, un lieu atelier où elle est adoptée. Très vite, elle parle de son désir de chanter, on lui propose d'installer un piano en bas et d'y vendre des jus d'orange. Tout cela sans répertoire, sans savoir s'accompagner au piano. Donc il faut trouver un pianiste. Le pianiste de la jambe de bois la met sur la piste de Ether Rouchadze, géorgienne qui cherchait du travail. et c'est parti avec un public clairsemé qui n'apprécie pas trop le tour de chant. Alors on cherche des attractions, et Terry connaît un jeune Belge de 24 ans, Claude Suisse, étudiant en droit, qui fait un peu de prestigitation. Claude est fils de comédienne et de cancérologue renommé, dirigeant une clinique. Il est séduisant, dit-elle. Les parents font la gueule et ne veulent pas entendre parler de cette saltimbanque, pauvre, juive et pas bourgeoise. Claude lui fait découvrir des peintres amis de sa famille et aussi Marianne Oswald. Elle en dira « C'est stupéfiant, Marianne Oswald ».
Fantômes, nous sommes les hommes de somme qu'on nomme damnés de la mer. Nous devons, coûte que coûte, remplir les soutes du steamer. On crache les vaches, pas de relâche, toujours la tâche de faire d'enfer. Chacun hideux, mais droit, tout droit. Charge, charbon d'un, charbon de deux, charbon de trois. La gale m'installe en cale, on râle quand va le bateau sur la mer. On traîne, on peine, vienne la veine, la mienne, la nôtre, crevée. Navire, le pire, des noirs empires, tragique à dire, mais vrai, bien vrai. Chacun, hideux, étroit, tout droit. Tisonne, le feu d'un, le feu de deux, le feu de trois. Au drame des flammes se pâment les âmes des dames voguantes en première. La houle roule, saoule ces poules qui foulent nos toits de fer. C'est elle ou telle, sort en dentelle. À qui est-elle? À lui, à toi, à moi, chacun, hideux, étroit. Attrape, femme du un, femme du deux, femme du trois. Nous sommes les damnés, les chauffeurs, les soutiers, les va-du-pieds, les mal-nés. Va faire le bateau-glisse, va faire la mer se glisse, va faire l'arbre se glisse, va faire jusque à l'hélice, va faire afin d'avancer. Salpine, en piétine, aux machines, aux turbines qui dessinent jusqu'en Chine un large chemin vert. Sillage du steamer, chauffons à fond, nous sommes les maudissaires du paquebot roi de la mer. Chauffons à fond, chauffons.
Je me suis complètement trompé sur elle parce que je l'ai vue entrer, c'était une femme grande, assez grosse, si j'ose dire, elle était enveloppée, comme on dit, et alors... Elle était habillée en noir, elle marchait pieds nus et elle avait beaucoup de bijoux clinquants, du genre bijoux arabes. Et je vois Barbara aller discuter avec le pianiste et je n'entends pas cette conversation, j'étais assis à une table. Et puis Barbara s'en va, je la suis du regard, c'était une assez belle femme, et en tout cas qui avait une allure formidable. Et je vais demander au pianiste qu'est-ce qu'elle voulait. Et alors le pianiste me dit, ben voilà, c'est compliqué, il dit, elle voulait m'engager comme pianiste parce qu'elle voudrait faire un récital de chansons. Et il dit, mais vous savez, moi je ne suis pas libre, je tape sur ce piano tous les soirs et je ne peux pas me libérer. Alors elle m'a laissé son téléphone, mais il dit, donnez-moi son téléphone, je pourrais peut-être lui trouver une pianiste. Et effectivement, j'étais copain avec la fameuse Eteri Rouchadze. C'était une remarquable pianiste classique. Et comme je savais qu'elle cherchait des contrats, je lui ai téléphoné en disant, il y a une femme riche, et je me suis trompé parce qu'elle était très pauvre en fait, qui cherche une pianiste, et l'affaire s'est faite. Ce qu'il y a, c'est qu'elle n'avait aucune idée de ce que pouvait être un répertoire de la chanson. Et moi, j'avais pas beaucoup d'idées à l'époque, mais comme j'avais appris l'illusionnisme, et j'allais tout le temps au Music Hall, et tout le temps à l'ancienne Belgique notamment. Je n'ai pas raté un spectacle de l'ancienne Belgique. Et alors je voyais toutes les chanteuses, je voyais tous les répertoires, et j'avais certaines notions. Alors il m'est venu à l'idée de travailler pour qu'elle ait un répertoire, et grâce au ciel, on s'est mis d'accord, et j'ai ouvert un cabaret qui était Le Cheval Blanc. Il y avait une devanture, et cette devanture de cet endroit était une friterie. Mais quand on passait le petit goulet de la friterie, on se trouvait dans une salle merveilleuse, et il y avait une petite scène. Alors, pourquoi c'était comme ça? Eh bien, c'est tout simplement parce que j'avais été précédé par quelqu'un qui est devenu très célèbre, qui est Joe Dekmin, et qui avait amené là pour un jour ou deux La Poubelle. C'était son cabaret itinérant, qui était un ensemble d'artistes pris parmi les comédiens bruxellois. Et moi, j'ai repris ça sans en changer un iota, parce que c'était splendide. Et on a ouvert avec au programme, alors nous sommes ici en 1951-52, je peux pas dire la date exacte, mais on a ouvert avec Barbara, qui était... pas tout à fait la vedette, mais elle était en bon numéro, en bonne place, et que j'avais déjà changé la mise en scène, parce qu'elle chantait debout et les jambes écartées, les bras écartés, comme quelqu'un de crucifié. C'était assez affolant. Alors je l'avais assise au piano, et Terry lui avait appris le piano, parce que elle ne savait pas jouer. Et Terry, qui est une grande pianiste, l'avait en quelques semaines appris des rudiments suffisant pour s'accompagner. Et on lui avait donné aussi un répertoire. Alors le répertoire qu'on avait donné à Barbara était tout à fait étonnant, parce qu'on lui avait donné du Léo Ferré, que je connaissais, on lui avait donné des chansons 1900, notamment Madame Arthur, Le Fiacre, des choses comme ça, et qui pour elle les découvrait, parce qu'elle avait une extraordinaire ignorance de la chanson, à vrai dire. Et là, on lui avait fait un répertoire, et on lui avait donné aussi des choses de Fraxon qu'on avait retrouvées. Enfin, on avait donné un type de répertoire.
Café Concert.
Oui, Café Concert, et ça a très très bien marché, c'est-à-dire elle qui se faisait siffler un mois avant, eh bien, faisait du succès.
Un peu plus tard, avec lui et Terry, elle découvrira chez un disquaire le premier 78 tours de Brassens.
On n'oublie pas ces choses-là.
C'est à travers de larges grilles que les femelles du canton contemplaient un puissant gorille, sans souci du qu'en dira-t-on. Avec impudeur, c'est comme mère, lorgnait même un endroit précis que rigoureusement ma mère m'a défendu de nommer ici. Garogorie. Tout à coup, la prison bien close où vivait le bel animal s'ouvrant, c'est pourquoi je suppose qu'on avait dû la fermer mal. Le singe en sortant de sa cage dit, c'est aujourd'hui que je le perds. Il parlait de son pucelage, vous aviez deviné, j'espère. Garogorie. Patron de la ménagerie, cri était perdu, nom de nom, c'est assommant, car le gorille n'a jamais connu de guenon. Dès que la féminine engeance sut que le singe était puceau, au lieu de profiter de la chance, elle fipe des deux fuseaux. Garogorie. Celle-là même qui naguère le couvait d'un œil décidé, fut y reprouvant qu'elle n'avait guère de la suite dans les idées. D'autant plus vaine était leur crainte que le gorille est un luron, supérieur à l'homme dans l'étreinte, bien des femmes vous le diront. Garogorie. Tout le monde se précipite hors d'atteinte du singe en rut, sauf une vieille décrépite et un jeune juge en bois brut. Voyant que tout se dérobe, le quadruman accéléra son dandinement vers les robes de la vieille et du magistrat. Garogorie. Bah, soupirait la centenaire, qu'on pût encore me désirer, ce serait extraordinaire et pour tout dire inespéré. Le juge pensait impassible qu'on me prenne pour une guenon, c'est complètement impossible, la suite lui prouva que non. Garogorie. Supposez qu'un de vous puisse être comme le singe obligé de violer un juge ou une ancêtre, lequel choisirait-il des deux? Une alternative pareille, un de ces quatre jours mes choix, c'est j'en suis convaincu la vieille, qui sera l'objet de mon choix. Grégory! Mais par malheur, si le gorille au jeu de l'amour vaut son prix, on sait qu'en revanche il ne brille ni par le goût ni par l'esprit. Lors, au lieu d'opter pour la vieille, comme aurait fait n'importe qui, il saisit le juge à l'oreille et l'entraîna dans un maquis. Garogory ! La suite serait délectable, malheureusement je ne peux pas la dire et c'est regrettable, ça nous aurait fait rire un peu, car le juge au moment suprême criait maman, pleurait beaucoup, comme l'homme auquel le jour même il avait fait trancher le cou. Garogory !
Le succès venant, la police s'intéresse à l'activité du lieu et y met un terme. Retour à la case départ, plus de boulot. Elle repère une salle de bal miteuse avec un rideau et une petite scène au fond d'une friterie, le Cheval Blanc.
La première fois, je crois que c'était en Belgique, où j'avais ouvert avec deux personnes, une femme formidable qui était une pianiste classique, une géorgienne qui maintenant est repartie en Géorgie, et un homme, un cabaret qui s'appelait le Cheval Blanc. Et là, je ne sais pas si c'est vraiment la première fois que je le trouvais en face des gens, mais je pense que oui. Et alors je chantais quoi? Je chantais Madame Arthur, j'avais pas du tout écrit encore la chanson. Donc là, sont venus tout ce qui était, je dirais pas l'aristocratie belge, mais je veux dire les médecins, les avocats, il y a un public comme ça. Et nous, on avait ouvert ça, on vendait des Coca-Cola, je crois que c'est ça. Mais je ne suis pas sûre que c'est la première fois, ça, hein, parce que je ne sais pas.
Claude Suisse négocie un accord avec les friteurs limonadiers et ça repart avec aussi un mime et un imitateur. Et Thierry et Monique qui chantent à l'enseigne de la fille sans cœur, Madame Arthur, Monsieur William, de Jean-Roger Cossimon et Léo Ferré.
C'était vraiment un employé modèle, Monsieur William. Toujours exact et toujours plein de zèle, Monsieur William. Il arriva jusqu'à la quarantaine, sans fredaine, sans le moindre petit drame. Mais un beau soir du mois d'août, il faisait si bon, il faisait si doux, que Monsieur William s'en alla flâner droit devant lui au hasard, et voilà. Monsieur William, vous manquez de tenue, qu'allez-vous faire pour la 13e avenue? Il rencontra une fille bien jeunette, Monsieur William. Il lui offrit un bouquet de violettes, Monsieur William. Il l'emmena à l'hôtel de la Pègre, mais un nègre a voulu prendre la femme, Monsieur William, hors de lui, lui a donné des coups de parapluie. Oui, mais le nègre dans le noir lui a coupé le cou en deux coups de rasoir. Monsieur William, vous manquez de tenue, qu'alliez-vous faire dans la 13e avenue? Il a senti que c'est irrémédiable, Monsieur William. Il entendit déjà crier le diable, Monsieur William. Aux alentours, il n'y avait personne qu'un trombone, chantant l'appel des femmes, un aveugle en gémissant, sans le savoir à marcher dans le sang, puis dans la nuit a disparu, c'était peut-être le destin qui marchait dans les rues.
Monsieur William, vous manquez de tenue. Vous êtes mort dans la 13e avenue.